Bravons la mélancolie, nous sommes à présent, Vincent et moi, dans l'allée centrale du cimetière du Père-Lachaise, au kilomètre 254, depuis la source de la Seine. Devant nous, il y a une sorte de porche en haut de l'allée pavée centrale. Il y a une sorte de porche assez éprouvant où un homme et une femme sans courage, ils sont tout nus, à disparaître dans le néant. C'est absolument affreux. Heureusement, sur la droite, on voit le gisant de Victor Noir, le journaliste qui a été tué en duel par le prince Bonaparte sous le Second Empire et dont les attributs sexuels proéminents sont l'objet, comme on sait, d'un culte de la fertilité de la part des parisiennes depuis cette époque, culte qui a rendu lesdits attributs d'un vert brillant par l'effet du frottement. On croit en général que le Père Lachaise a toujours été là, comme le Nil, le Conseil d'État ou le Café Calvados, et rien n'est moins vrai. Père Lachaise est en fait une création des années 1800, parce que les cimetières de Paris étaient très encombrés. Et si l'on y voit Molière et La Fontaine, c'est que l'autorité préfectorale, le préfet de Paris ou le préfet de police, je ne sais pas, a fait transporter les deux grands écrivains pour faire plus vrai. L'administration en France a toujours eu un côté un peu spirit, comme ça. À la mort de René Cassin, par exemple, je me souviens qu'on avait promené son cercueil dans le Palais Royal pour qu'il puisse revoir, enfin pour que le cadavre puisse revoir de ses yeux juridiques les endroits qui avaient fait sa gloire. Quand on l'a transporté il y a quelques années au Panthéon, les cendres de Germaine Tillon, la résistante, les cendres en question avaient été remplacées par de la terre parce que la famille s'était opposée à juste titre à ce viol de sépulture, mais il fallait bien que l'héroïne soit récupérée par un gouvernement prosaïque. Le Père Lachaise, c'est le 19e siècle pris dans la glace avec les tombes toujours fleuries de Chopin et de Nerval, mais qui sauve une incroyable débauche de fresques et de sculptures par lesquelles la vanité sociale défie la mort. Hugo déclarait de manière assez drôle « Je hais votre Père Lachaise avec ses hideux petits édifices maniérés à cases et à compartiments où le brave Parisien met dans des tiroirs son père, sa mère, ses enfants, sa femme et toute sa race. » On se croirait en fait à Charenton. Nombre de mausolées ressemblent d'ailleurs à ces petites maisons où l'on enfermait les fous avant que le grand Pinel, l'aliéniste, le psychiatre du 19e siècle, ne les libère. Toujours prêt à rire des choses les plus sérieuses, d'un rire un peu gras, Claudel prétendait en 1939, on trouve ça dans le journal d'Hélène Opneau, je le cite, « Le préfet de police a empêché la sirène d'être actionnée près du cimetière du Père Lachaise afin que les morts ne confondent pas la sonnerie d'alarme avec celle de la trompette du jugement dernier, d'autant qu'ils ont toujours une oreille à l'écoute. » J'ai mille raisons d'aimer ce cimetière. D'abord parce que mon grand-père y est né, ce qui n'est quand même pas banal. Ensuite, parce que j'y vais chaque Toussaint avec ma fille Victoire déposer une fleur sur la tombe d'Apollinaire qui a été sculptée par Ferrat, peintre russe, et qui est une sorte de dolmen. Mais surtout parce qu'on y voit le cénotaphe d'un Anglais que j'ai beaucoup aimé sans le connaître, vu qu'il est né au XVIIIe siècle, et qui s'appelait Sidney Smith. La France que je préfère, au fond, est traversée par l'étranger, et la destinée de Sidney Smith l'illustre très bien. Il est né en 1764 à Westminster, dans une famille d'officiers de marine. À 13 ans à peine, comme on faisait à l'époque, on voit ça dans le film Master and Commander. À 13 ans à peine, il s'engage dans la marine, il participe à plusieurs batailles de la guerre d'indépendance américaine, et puis, démobilisé, il s'établit 2 ans en France, qui est un pays qu'il ne cessera jamais d'aimer. C'est assez paradoxal, puisqu'il avait combattu contre les Français au moment de la guerre d'indépendance, et ensuite il combattra contre les Français au moment de la Révolution et de l'Empire, mais il n'a jamais cessé d'aimer la France. Il se met au service du roi de Suède, puis du sultan de Constantinople, et pour finir, la Révolution française le rappelle dans la marine, il devient l'un des adversaires de Bonaparte au siège de Toulon. Il est capturé au cours d'un raid sur le Havre, nous sommes toujours sur les bords de la Seine. Il est enfermé à la prison du Temple, et là, il s'évade en 1798. Je trouve cette scène fantastique qui rappelle le Mouron Rouge. Il s'évade grâce à l'inventivité d'un danseur de l'opéra qui s'appelait Bois Girard et qui s'était costumé pour la circonstance en général républicain. Il devient amiral, il affronte Bonaparte en Égypte et c'est lui qui défend Saint-Jean d'Acre. Napoléon dira à Ségur à ce moment-là « Ami, si je m'étais emparé de Saint-Jean d'Acre, je prenais le turban, je faisais mettre de grandes culottes à mon armée, j'en faisais mon bataillon sacré, mes immortels. Au lieu d'une bataille en mort à vie, je me faisais empereur d'Orient et je revenais à Paris par Constantinople. » Et il ajoutait à propos de Sidney Smith « Décidément, cet homme m'a fait manquer ma fortune. » Au départ des Français, les Français s'en vont, Bonaparte quitte l'Égypte, mais les trésors de l'expédition d'Égypte sont entassés sur un bateau, la grande expédition d'Égypte, avec la découverte de l'Égypte, avec ses trésors archéologiques, avec les planches de vivants de nom, tout ça est entassé sur un bateau et les Anglais s'apprêtent à le saisir. Et Sidney Smith, de manière extrêmement chevaleresque, en réalité, fait partir les bateaux vers la France, qui est à l'époque son ennemi, parce qu'il trouve normal que les Français récupèrent ces trésors archéologiques qu'ils ont été les premiers à récolter. Il en reçoit une lettre de félicitations, plus tard, de Charles X, mais évidemment, il est fort critiqué dans son pays, et la gloire de Nelson, par ailleurs, éclipse la sienne. Et puis Napoléon abdique et Sidney Smith, le meilleur adversaire des Français, quitte définitivement sa patrie et revient s'installer à Paris, où il s'installe rue Boissy d'Anglas, toujours à deux pas de la Seine. Il retrouve là-bas ses amis, et d'abord Dominique Larrey, le chirurgien de la Grande Armée, qu'il aimait beaucoup, et avec eux, il se consacre à l'amélioration du sort des naufragés et à la libération des esclaves, qui est un sujet qui l'occupera toute sa vie. Il n'a pas beaucoup de fortune, mais il dépense là-dedans la majorité de sa fortune. Bref, il se ruine. Et à sa mort, ses héritiers doivent mettre en vente les maigres possessions qui lui restent pour payer le passif de la succession. Et vient le jour de la vente, et là, un vieux général français qui était à Saint-Jean-d'Acre veut acheter l'épée que Sidney Smith avait portée à Saint-Jean-d'Acre, où il avait combattu. Mais ses moyens ne lui permettent pas d'enchérir. Alors le gendre de Sidney Smith la lui offre. Le nom du gendre, comme le nom du général, sont restés inconnus. Mais c'est à ce général et à Sidney Smith que Vincent et moi voulons dédier, en quelque sorte, cet épisode devant le petit cénotaphe 18e de celui qui fut, à travers toutes les guerres, ce qu'on appelle un grand ami de la France.